Vous écoutez Radio Kapi, il est 7h à Businga dans la Mongala. Une heure de plus à Bukiringi en Ituri, le journal.
Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Le gouvernement de la RDC rassure la CENI sur les dispositions sécuritaires prises pour le bon déroulement de l'enrôlement des électeurs dans l'est du pays. Ceci est contenu dans une dépêche publiée vendredi. Occasion pour le président de la CENI d'encourager la population des provinces concernées à être prête pour cette opération qui relève d'un devoir civique. Des centaines d'enfants victimes des atrocités des groupes armés traînent dans les rues de Bounia, abandonnés à leur triste sort. Constat du Conseil d'enfants de l'Ituri. Cette structure alerte les autorités pour la prise en charge alimentaire, scolaire et psychologique de ces enfants. Et puis, l'invité de ce matin, Patience Lukeso, enseignant à l'Université de l'Afrique du Sud, il fait son analyse de l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais, opération en cours au pays de Mandela. Madame, Messieurs, bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rassure la centrale électorale sur les dispositions sécuritaires prises pour le bon déroulement de l'enrôlement des électeurs dans l'est du pays. Ces assurances sont contenues dans une dépêche de la cellule de communication de la primature, dépêche publiée le vendredi. Noëlla Luzitu nous en parle.
D'après la dépêche de la cellule de communication de la primature, l'opération d'enrôlement des électeurs va démarrer le 16 février dans les provinces de l'Est du pays que la CENI appelle aire opérationnelle 3. Sera aussi concerné le territoire de Kwamout de l'aire opérationnelle 1, mais qui avait connu un moment d'insécurité. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a fait part de ses assurances au président de la CENI, Denis Kadima, au cours d'une réunion vendredi avec le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, ainsi que le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Il était question d'analyser les aspects sécuritaires pour un meilleur déroulement de l'opération d'enrôlement dans cette région, constituée notamment des provinces du Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Uele, Bas-Uele, Ituri et Tchopo. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a rassuré quant aux mesures sécuritaires déjà prises au niveau de la police et de l'armée pour assurer un meilleur déroulement de l'opération dans cette partie du pays dont certains coins sont sous la menace des groupes armés. Le président de la CENI a, à l'issue de cette rencontre, encouragé la population des provinces concernées à se préparer et à être prête pour participer à cette opération qui relève d'un devoir civique.
Amener la population à passer l'exercice de vote de manière réfléchie, c'est l'objectif principal d'une campagne dénommée Élections citoyennes, avec comme slogan « Un vote utile pour instaurer la bonne gouvernance », campagne lancée hier à Beni. Ces activités vont se dérouler à travers des séances de sensibilisation de toutes les couches jusqu'à l'investiture de ceux qui seront élus lors du prochain scrutin. Benjamin Assimoni, point focal de cette campagne organisée par la Jeunesse Réunie en synergie, explique au micro de Guylaine Kassassia.
La campagne élection citoyenne s'inscrit dans un objectif de conscientiser les potentiels électeurs de la région de Beni pour pouvoir s'approprier le processus électoral, c'est-à-dire les amener à comprendre que tous les rôles possibles à jouer dans les processus électoraux, ils doivent vraiment s'en approprier et particulièrement dans la deuxième ligne d'objectif, nous voulons amener la population de Beni à cette fois-ci passer en tout cas à l'exercice de vote de manière réfléchie et rationnelle, parce que dans la rue, les commentaires et selon lesquels on ne connaît pas élire, alors nous ne voulons pas affirmer cette thèse communautaire qui est un peu dans les vulgaires. Nous voulons alors cette fois-ci, en tant que des acteurs de la société civile, des activistes et citoyens congolais, amener la population à être vraiment dans la maîtrise parfaite de tous les profils et responsabilités requises pour chaque poste électoral au niveau de la République démocratique du Congo, comme nous sommes dans une année électorale.
Selon la même source, cette campagne va s'élargir jusque dans le territoire de Beni. Je vous l'ai dit dans les titres, à Bounia, des centaines d'enfants victimes des atrocités des groupes armés qui traînent dans les rues sont abandonnés à leur triste sort. C'est le constat fait par le Conseil d'enfants de l'Ituri qui alerte les autorités pour leur prise en charge alimentaire, scolaire et psychologique. Selon le président de cette structure, ces enfants qui ne méditent que la vengeance constituent un danger pour la société si rien n'est fait pour leur réinsertion sociale. Isaac Remoyope nous fait le point.
C'est depuis 5 ans que ces enfants, dont certains sont orphelins des pères et des mères, vivent dans les rues de Bounia et leur nombre ne fait que croître à cause de la persistance de l'insécurité en Ituri. Ils passent la journée à mendier de l'argent aux passants pour leur survie et la nuit ils se rassemblent devant les devantures des maisons de commerce qui leur servent d'abri. Certains se livrent à la consommation des drogues et des violences. De nombreux habitants sont victimes d'agressions de ces enfants et de cambriolages pendant les heures tardives au boulevard de la ville de Bounia. Le conseil d'enfants de l'Ituri fustige l'indifférence des autorités de l'État, des parrain des ONG de protection de l'enfance sur les sorts de ses enfants. Son vice-président Emmanuel Mugisa plaide pour leur prise en charge scolaire, alimentaire et psychologique pour le changement de leur mentalité.
Les enfants passent des nuits à l'extérieur, ne fréquentent pas les milieux scolaires. Les enfants sont là juste pour se droguer. Et puis, si on voit les mentalités de ces enfants, ils disent que moi je suis sa père ni mère, mais il faut qu'un jour dans la vie je puisse me venger aussi contre ces gens-là. Et ils passent toujours aux choses de guerre et des revanges, tout. On dit le physique, ce n'est pas représenté. Mais si aujourd'hui, on nous néglige, nous les enfants, demain, quel sera le sort de la province d'Ituri?
Nous n'avons pas encore la réaction du gouvernement provincial. Cependant, au cours d'un point de presse le mois dernier, le gouverneur a évoqué la nécessité de créer un centre d'encadrement de ses enfants, mais les ressources sont limitées, a-t-il dit. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. La société civile du territoire de Beni appelle les FARDC à l'intensification des opérations militaires contre les rebelles ADF dans la partie ouest de ce territoire. Cette demande intervient 4 jours après l'attaque des ADF au village de Kongwe Pointi, ayant coûté la vie à une dizaine de civils. Cette structure citoyenne parle d'une zone où l'armée n'a jamais intensifié les opérations de traque des ADF. Richard Kirimba, premier vice-président de la société civile du territoire de Beni, l'a dit vendredi devant la presse à Oicha, commune rurale et chef-lieu du territoire de Beni. Richard Kirimba est au micro de Guylaine Kassassia.
La société civile se rappelle de l'observation toujours de la population selon laquelle il n'y a jamais eu de vraies opérations dans cette partie où les gens sont morts à Kongé. La partie ouest de Benimbao, la partie ouest de Oicha n'a jamais connu des opérations militaires sérieuses. C'est comme si nous chantons à nous-mêmes et que personne ne nous écoute. Et cela étant, nous demandons à ce que les commandements des opérations conjointes UPDF et FARDC puissent élargir cette fois-là ces opérations conjointes aux autres entités du territoire de Beni, notamment la partie ouest de la route nationale numéro 4. Que peut-être cela va aider à combler les vides et les gaps qu'il y a dans les opérations militaires à court.
Pour le moment, nous n'avons pas eu la réaction des responsables du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord dans la partie ouest du territoire de Beni et sous la responsabilité militaire opérationnelle. Nord Kivu toujours, environ 28 000 personnes déplacées, en particulier des enfants mal nourris, les femmes enceintes et allaitantes, bénéficient d'une assistance alimentaire du Programme alimentaire mondial PAM. Cette assistance a été acheminée du 2 au 4 février en cours dans la zone de santé de Rutshuru, une entité occupée par les rebelles du M23 et où des populations n'avaient pas accès à une assistance humanitaire. Dans un communiqué du 10 février, le PAM indique qu'avec le soutien des autorités à Goma et d'autres acteurs, il a livré 26 000 tonnes d'aliments nutritifs dans 12 centres de santé, notamment Rubare, Kalingira, Katale et Rutshuru Centre. Le point avec vous, Sifa Maguru.
Ces aliments nutritifs spéciaux sont destinés à 8 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes. Wilfried Kwambi, chef de bureau zone est du PAM basé à Goma, a déclaré que ces livraisons sont une première étape importante à un moment où des milliers de familles ont été contraintes de fuir leurs maisons dans les zones difficiles d'accès et n'ont que peu ou pas du tout accès aux aliments nutritifs. La population vivant dans ces zones de Rutshuru sera servie dans les centres de santé de leurs villages respectifs, précise le PAM. Cette agence spécialisée des Nations Unies dit avoir besoin de 627,3 millions de dollars en 2023 pour répondre efficacement aux besoins alimentaires et nutritionnels croissants dans les pays. Des fonds nécessaires pour aider les enfants à avoir accès à des aliments nutritifs par le biais des programmes d'alimentation scolaire, des services de nutrition et des soutiens aux activités de subsistance. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Kasaï Oriental, signalant la remise hier samedi à Mbujimayi de l'assistance sociale à plus de 100 victimes des exactions des Kamuina Nsapu, le représentant de la fondation André Kadima affirme qu'une enveloppe de plus de 70 000 $ a été remise par le chef de l'État au ministère des Affaires sociales pour organiser cette assistance sur place à Mbujimayi. La fondation André Kadima leur a donné plusieurs articles dont les pagnes, les machines à coudre, les houes ainsi que des produits pharmaceutiques pour ne citer que ça. Esther Dalafina, reportage.
La cérémonie de remise de l'assistance aux victimes de Kamuina Nsapu a été présidée par l'évêque du diocèse de Mbujimayi. Plusieurs articles sont disponibilisés pour les victimes par la fondation André Kadima. D'après Mgr Bernard Emmanuel Kassanda, plus de 30 localités ont été touchées par les exactions de Kamuina Nsapu. Pour l'instant, les habitants d'une dizaine de villages seront assistés. Professeur Claude Mouya, représentant de la fondation André Kadima.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le président a pensé à eux, a décidé de venir en aide avec cette assistance.
Anastasie, habitant de Chinchanko, remercie le chef de l'État pour ce geste de solidarité.
J'ai bénéficié d'un pain. Je remercie le chef de l'État pour nous avoir habillés parce que tous nos habits étaient brûlés.
Avec larmes aux yeux en recevant l'assistance sociale, Rosalie, habitante de Dimbelenge, demande une place pour vivre avec sa progéniture.
Je viens de Dimbelenge, chez Mutombo Dibwe. J'ai vu comment on a décapité mon mari. Je n'ai pas d'adresse fixe ici. Mes enfants n'étudient pas. Je cherche un petit job. On me chasse partout. Que les chefs de l'État pensent à nous.
Signalons que les représentants des différentes confessions religieuses étaient invités pour recevoir l'enveloppe de Minerval des élèves victimes de Kamuina Nsapu. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Province du Maniema, les jeunes de la communauté Yuripot Kindu ont été sensibilisés vendredi sur l'usage correct de l'eau ainsi que sur le lavage correct des mains. Cette sensibilisation a été assurée par l'ONG RA qui travaille dans le Hoche, eau, hygiène et assainissement. L'objectif était d'outiller ces jeunes pour qu'à leur tour, ils sensibilisent la communauté sur les pratiques d'hygiène afin d'éviter les maladies des mains sales et les maladies d'origine hydrique. Florence Kiza pour le reportage.
L'ONG RHA a voulu à travers cette séance de sensibilisation rappeler à la communauté les bons usages de l'eau et les lavages corrects des mains. Un relâchement a été constaté en effet en ce qui concerne le lavage des mains comme cela se faisait durant les différentes vagues de COVID-19. Les dispositifs de lave-mains étaient visibles dans des maisons d'habitation et dans le lieu public comme le bureau et les écoles. Abbé Kizito Barungu, administrateur de RHA Maniema.
Il y a le constat d'abord des maladies d'origine hydrique. Il y a cela qui disent que le Congolais ne meurt pas de microbes ou de saletés. Alors on se permet de manger n'importe comment et de saluer les gens. Alors nous répondons à l'invitation des jeunes Yuripot Kindu afin qu'ils soient capacités sur l'usage correct de l'eau, comment se laver correctement les mains et comment lutter contre les maladies d'origine hydrique. Et ces jeunes, ils iront aussi sensibiliser la communauté.
Le coordonnateur de Yuripot, de son côté, plaide pour l'accompagnement par le gouvernement provincial en matériel de sensibilisation. Fabien Kimbi.
Cette formation va nous servir nous également de dans nos communautés, notamment dans les écoles. Nous aurons besoin de l'accompagnement du gouvernement provincial, de nous équiper par exemple avec le lavage des mains, les savons liquides. Cela va nous permettre d'intensifier nos activités.
C'est la salle de réunion de l'OMS qui a servi de cadre à cette séance de sensibilisation. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, le maire de la ville de Beni, accompagné des agents du cadastre et titres immobiliers, ainsi que d'autres autorités locales, est descendu le mercredi dernier dans des sites ciblés par certains promoteurs immobiliers qui menaçaient de les spolier. C'est entre autres le stade public de Beni Mangote, situé au quartier Mambango dans la commune Bungulu. L'autorité urbaine a saisi l'occasion pour placer des bornes sur cet espace public. Selon le commissaire supérieur principal et Bakasha Linarcisse, l'heure est à la traque de tous ceux qui, de près ou de loin, seraient indexés dans cette affaire.
Actualité Afrique Monde.
Séisme en Turquie et en Syrie, les équipes de secours ont retrouvé des nouveaux survivants dans des familles entières, dans des bâtiments effondrés. Cela, 5 jours après un séisme catastrophique qui a fait plus de 25 000 morts. Par ailleurs, un point de passage a été ouvert entre la Turquie et l'Arménie pour aider le transport de l'aide internationale pour la première fois en 35 ans.
L'invité.
L'invité de la rédaction ce matin est Patience Loukesso, enseignant à l'Université de l'Afrique du Sud, UNISA. Il fait ici son analyse de l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais, opération en cours dans ce pays. Patience Loukesso s'entretient avec Grace Amzati.
Monsieur Patience Loukesso, bonjour. Quelle analyse faites-vous de l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant ici en Afrique du Sud, lancée depuis le 25 janvier?
Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir fait participer à l'analyse du processus de l'enregistrement et de l'enrôlement des Congolais vivant en Afrique du Sud. Comme vous le savez, dans chaque œuvre humaine, il y a toujours quelque chose de positif quand on s'y met, mais parfois c'est aussi entaché de quelques points négatifs. Il en est des cas pour le processus d'enrôlement qui s'effectue en Afrique du Sud. Comme vous le savez, c'est la première que la République démocratique du Congo tente une expérience d'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger. Donc pour le positif, c'est d'abord le fait que le processus a bel et bien commencé le 25, comme annoncé, au niveau de Pretoria, à l'ambassade congolaise. Deuxièmement, les Congolais qui sont en ordre s'y sont rendus et ils ont reçu quand même des services assez professionnels. On n'a pas enregistré beaucoup de plaintes sur le point technique comme on en a eu au Congo. Troisièmement, il y a de l'ordre. Je crois que ça, c'est les résultats d'une certaine mentalité. Mais il y a aussi des points négatifs sur lesquels il faut se pencher. Il y en a de plusieurs ordres. Le premier que je relève, d'après mon expérience et mon point de vue, c'est l'emplacement même du bureau de l'enrôlement et des opérations. Pour moi, je juge mal que, étant donné que la CENI est une entité indépendante, que les activités de tel genre puissent s'organiser au niveau de l'ambassade. Ça dénote une certaine partialité parce que, vous savez, l'ambassade, c'est d'abord une organisation ou une entité gouvernementale. Et deuxièmement, le nombre de bureaux d'enrôlement, il n'y en a qu'un seul. Vous savez, l'Afrique du Sud, c'est un grand pays. Il y a des grandes villes comme Cape Town, Durban et Port Elizabeth qui sont très éloignées de Pretoria. Et cela signifie que quelqu'un qui veut se faire enrôler doit effectuer un long voyage de Cape Town pour ici. Et cela vient avec un coût, un certain coût. Et donc, ça, c'est un point qui vient un peu décourager la bonne volonté de nombreux Congolais qui voudraient se faire enrôler. L'autre point négatif encore, c'est aussi les exigences imposées. La plupart des Congolais, malheureusement, qui vivent ici en Afrique du Sud, utilisent les papiers des réfugiés. Et donc, ils se voient exclus du processus d'enrôlement et d'enregistrement.
Et que pensez-vous de tous les processus électoraux en RDC?
Sans vouloir m'ériger en prophète de malheur, je crains fort que l'ensemble du processus électoral au Congo puisse être un fiasco, un échec. Je m'excuse de le dire, mais j'ai eu des raisons de le faire. Politiquement, comme nous le savons tous, il y a eu beaucoup de plaintes de la part de certains acteurs politiques qui ont vu leur parti politique exclu du processus de l'élection même, de ceux qui devraient conduire la CENI. Et ça, c'est déjà un mauvais indice. Je vois la chose aussi en rapport avec ce qui se passe en Afrique du Sud, par exemple, où tout est mis au clair. Ce n'est plus une question. La commission électorale est indépendante, mais elle est aussi inclusive. Et on donne à chaque parti politique, à tout acteur politique, de questionner, même de faire des audits interne, s'il le faut, aussi audit externe, pour vraiment s'assurer que la commission électorale indépendante est libre et indépendante, comme on le dit. Mais ce qui ne semble pas être le cas, c'est ça qui fait que peut-être que déjà il y a quelque chose qui s'organise et pourrait, j'espère, j'ai pris pour que nous puissions avoir des élections libres, démocratiques et apaisées au Congo.
Alors, quelles sont vos recommandations à la CENI et aux autorités congolaises pour que cette opération d'enrôlement soit une réussite qui impliquerait même la réussite de tout le processus électoral?
J'estime que la manière dont les élections vont être organisées cette année va décider du sort de l'avenir du Congo à court et à long terme. Mes recommandations à la CENI, il y a encore possibilité qu'on puisse inclure les acteurs politiques majeurs dans le processus électoral. Parce que les exclure ne va pas arranger la situation aux autorités politiques. Je recommanderais qu'ils puissent mettre d'abord l'intérêt du peuple congolais à l'avant. Le Congo s'est fait caractériser par des grands détournements, mais pour le moment, il faut d'abord sauver les meubles, comme on l'a dit. Donc, nous donner des élections qu'il les faut, qu'ils voient d'abord l'intérêt général de la population qui souffre.
Patience Lukeso, je vous remercie.
Merci, chère Grace Hamzati.
Notre invité, enseignant à l'Université de l'Afrique du Sud, UNISA, répondait aux questions de Grace Hamzati. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.